Au micro, Alain Rosanquier, qui a le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Cette journée, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, prolonge en quelque sorte dans son atmosphère le voyage d'Emmanuel Macron en Israël la semaine dernière, à l'occasion du 5e Forum international de la mémoire de la Shoah. C'était, on le sait, la première fois qu'Emmanuel Macron se rendait en Israël en tant que président de la République, même s'il y avait déjà effectué des voyages, mais c'était en tant que ministre de l'économie. Une importante délégation l'accompagnait. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en direct au micro Gérard Inger, membre du bureau de J-Call et qui, à ce titre, a été invité par la présidence de la République à faire partie de cette délégation. Gérard Inger, bonjour.
Bonjour.
Et vous fûtes président de J-Call France et membre du bureau actuel de J-Call. Est-ce que, en deux mots, vous pouvez nous rappeler ce qu'est J-Call, même si nos auditeurs doivent déjà savoir de quoi il s'agit?
J-Call est une association que nous avons créée en 2010 pour promouvoir la solution à deux États entre Israël et la Palestine, alors que en Israël, il y a toujours un gouvernement qui n'est pas réellement favorable à cette solution. Et donc, nous voulions rassembler des juifs de la diaspora pour montrer au gouvernement israélien que nous étions favorables à la solution à deux États. Et J-Call est très présent en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, de même que J-Street, qui fait le même travail avec des méthodes différentes, l'est aux États-Unis, ou bien Yahad en Grande-Bretagne.
Et merci. J'en profite pour rappeler que J-Call, en partenariat avec La Paix Maintenant, organisera le lundi 3 février une rencontre au Cercle Bernin-Lazare avec Nicole Bacharan sur la thématique de Trump, Israël et les Juifs. Vous trouverez toutes les informations sur le site de J-Call. Donc, des membres de J-Call dans une délégation officielle, présidentielle qui plus est, ce n'est pas si fréquent. Comment expliquer cette...
Non, c'est assez habituel. J'étais de la délégation qui accompagnait François Hollande en Israël en 2013 et la présidence de la République actuelle a renouvelé son invitation. Les pouvoirs publics français considèrent J-Call comme un interlocuteur important et donc nous invite régulièrement.
C'est donc une avancée certaine et on peut espérer qu'une partie de la communauté suive l'exemple de la présidence de la République.
J-Call fait partie de la communauté juive, certes avec un point de vue qui est minoritaire indéniablement, mais enfin une minorité qui existe, qui n'est pas corpusculaire, groupusculaire, et qui trouve un public large pour l'écouter.
Tout à fait, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, dans différents pays européens, et c'est bien entendu le cas en Israël également.
Absolument. J'ai rencontré d'ailleurs, lors de mon séjour, plusieurs responsables israéliens d'opposition à la politique de Netanyahou, des membres de l'administration qui font maintenant partie de la société civile et qui essayent de leur côté de lutter contre la politique d'annexion rampante que mène le gouvernement israélien.
Alors, puisque vous abordez déjà cette dimension politique, on peut dire qu'effectivement, les aspects politiques et diplomatiques n'étaient pas véritablement au centre de ce voyage, qui était centré sur le souvenir de la Shoah. Cependant, la politique n'a pas été absente, puisque, outre vos rencontres, le président de la République a eu des rencontres, bien entendu, avec Benjamin Netanyahou, mais également avec Benny Gantz, son adversaire. Il a rencontré à Ramallah Mahmoud Abbas. La question de l'Iran a également été évoquée, donc cette dimension politique était présente. Avez-vous l'impression que la France a essayé de faire passer un message au cours de ce voyage ?
Elle en a fait passer plusieurs. Le premier message, le président de la République s'est engagé à faire une visite bilatérale, donc dans un cadre uniquement franco-israélien, en Israël. Et donc, c'est un point très important, parce que là, les discussions politiques, économiques seront au centre du problème et non pas uniquement les aspects mémoriels. Ça, c'est le premier point.
Sait-on s'il y a une date qui a été fixée pour ce voyage ? Y a-t-il une date qui a été fixée pour ce voyage ou c'est pas encore décidé ?
Non, il n'y a pas de date fixée, mais enfin, on sait que le mandat du président de la République se termine en avril ou début mai 2022. Donc, j'ai tendance à penser que ce voyage aura lieu fin 2021, quelque chose comme ça, quoi. Mais aucune date n'est fixée, quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il a déclaré clairement que ceux qui souhaitent la destruction de l'État d'Israël sont des antisémites. Il l'a dit lors de sa rencontre avec le président de l'État, Reuven Rivlin. Or, cette déclaration vise naturellement l'Iran. Dans ces termes-là, c'était de manière implicite, mais il s'en est pris à la politique iranienne de manière explicite lors de sa rencontre avec les Français de Jérusalem. Donc, là-dessus, les choses me paraissent assez claires. Et il a dit que la France serait toujours aux côtés d'Israël si Israël était menacé. Donc, on a là des aspects politiques importants. Il y a un autre aspect qui est important, mais qui concerne la communauté juive de France, c'est le fait qu'il ait beaucoup parlé lors de sa rencontre avec les Français de Jérusalem de la situation juridique du procès Halimi, en évoquant clairement, directement, le besoin de procès à un point tel que c'était presque une intervention à l'égard de l'autorité judiciaire, même s'il a déclaré qu'il n'interviendrait pas, bien entendu. Je ne sais pas ce que cette intervention donnera, mais en tous les cas, le président de la République a pris nettement conscience du malaise qui existe chez les Juifs de France à propos du procès ou du non-procès de l'assassinat de Sarah Halimi.
Tout à fait. C'est un des points qui restera de ce voyage, ne serait-ce que par la polémique qui commence à s'ouvrir ici parmi les magistrats, qui admettent mal, d'une part, que le président de la République se soit exprimé sur ce sujet, alors qu'il est de tradition de ne pas commenter une décision de justice, qui plus est à l'étranger. Et il y a donc déjà des remous un peu dans la...
Oui, il y a des remous dans la magistrature, mais il faudrait que les magistrats comprennent que les Français juifs et les autres aussi ne comprennent pas la situation. Si je prends ma voiture, je consomme du cannabis et je tue quelqu'un, le fait d'avoir consommé du cannabis est une circonstance aggravante. Si je suis antisémite, et la Cour a déclaré clairement que l'acte était antisémite. Si donc je suis antisémite, je prends du cannabis et je tue une femme juive en la défenestrant, je suis irresponsable. On a le sentiment que là, le droit ne fonctionne peut-être pas très bien.
De façon
et qu'il va falloir trouver des solutions pour remédier à cette situation.
Tout à fait. Enfin, ça sera en tous les cas une déclaration qui fera que ce voyage ne tombera pas tout de suite dans l'oubli, puisqu'on est déjà dans le domaine des polémiques, entre guillemets. On peut retenir également les autres propos qui ont été tenus dans l'avion au sujet de l'Algérie. Et une autre polémique, lancée cette fois non par les magistrats, mais par les politiques, et en particulier les politiques de droite, sur la soi-disant comparaison, ce qui ne tient pas, qu'il aurait fait entre la Shoah et la guerre d'Algérie et le besoin
non,
de devoir mémorialiser,
de ce qui est absurde. Non, le président de la République n'a jamais fait de comparaison entre la guerre d'Algérie et la présidence et la Shoah. Tout ça est absurde. J'ai lu ça effectivement dans quelques extraits de la presse juive. C'est pas du tout ça. Le président de la République a déclaré que, comme Jacques Chirac avait un défi mémoriel avec la Shoah, lui a un défi mémoriel avec la guerre d'Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'il mette la guerre d'Algérie sur le même plan. Que la Shoah. Ses déclarations sur la Shoah qu'il a faite à Yad Vashem, comme lors de ses différents discours, montrent bien que ce n'est absolument pas le cas. Il a un défi mémoriel, il estime qu'il a un défi mémoriel sur la guerre d'Algérie, qui n'est pas entrer correctement dans la mémoire collective française, mais ça n'a rien à voir avec le fait de mettre sur le même plan les deux événements, et il ne le fait pas.
Tout à fait. Évocation n'équivaut pas à comparaison.
Exactement.
Quels sont, un peu, puisque nous nous rapprochons de la fin de notre entretien, quels ont été les moments forts qui vous ont marqué au cours de ce voyage ?
Moi, les moments forts, ce n'est pas l'affaire de l'église Sainte-Anne, qui est un épiphénomène qui n'a rien à voir avec la déclaration de Jacques Chirac, parce qu'elle est beaucoup moins violente. Et
c'est terminé par une accolade avec les membres du service de sécurité israélien.
Mais oui, les médias cherchent à tout prix l'incident, alors qu'il a voulu simplement marquer, le président de la République, le fait que Sainte-Anne est une possession française et que les autorités israéliennes, les services de sécurité israéliens, n'ont pas à y pénétrer. Surtout quand le président de la République est là. Donc, point, ça n'est pas très important. Non, moi, ce qui m'a paru émouvant lors de ce voyage, c'est sa visite à Roglitz, là où se trouve le monument à la mémoire de la déportation des Juifs de France, où il était avec Serge et Beate Klarsfeld, et où il a, sans prononcer un mot, manifester véritablement son émotion par rapport à nos compatriotes. Je l'ai vu très ému, je lui ai dit, et d'autres aussi, que le nom de mon père figurait sur ce monument. D'autres personnes en ont fait autant, et on a bien vu que le président de la République était très ému et très sensible à ce qui s'est passé en France entre 1941 et 1944.
Tout à fait. Tous ceux qui ont assisté en direct à la retransmission de cet événement ont été marqués par la profondeur du recueillement d'Emmanuel Macron, et on voyait bien qu'il ne s'agissait pas d'un recueillement factice. Notre entretien touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour nous avoir fait participer un petit peu, pas personne interposée, à ce voyage. Et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de journée, et je leur dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Chronique pour la paix.